Si vous ne le savez pas, moi je suis là pour vous dire que vous êtes à l'écoute de CKIA FM 88.3 à Québec.
Allez, mes braves, allons se mettre sur le chemin.
Ainsi soit-elle.
Quand j'étais une petite fille, on m'avait bien apprise à faire ce qu'on me dit, rien savoir de l'anarchie, savoir rien de politique. Deux hommes déshabillés, de drogue au commandé, d'amour et de tuer. Et si tu me paries les réponses aux grands défis de l'univers.
Bonjour tout le monde, vous êtes sur les ondes de CKIA FM 88,3, vous êtes en compagnie des filles d'Ainsi soit-elle, en fait les deux Hélène du collectif, soit Hélène Vallière qui est à la mise en ondes et moi-même Hélène Nazon qui est au micro. Donc aujourd'hui, une émission, première vraie émission on pourrait dire, étant donné que la semaine dernière on vous a passé la reprise en fait d'une émission qu'on avait fait, simulation d'émission en direct de la JT pour souligner le lancement de notre monographie. Mais là, on peut dire qu'aujourd'hui, on se lance pour de bon. On a commencé, on s'est dit avec la rentrée des nouvelles. Donc, on va commencer avec un premier petit bloc de nouvelles que je vais vous faire. Ensuite, Hélène et moi, on va vous partager nos coups de cœur et nos coups de gueule de l'été, mais aussi, en fait, de la rentrée. Donc, des sujets tout à fait multiples, pluriels et ô combien engagés. Donc, on va commencer en musique d'abord avant d'aller en nouvelles. Hélène, première pièce qu'on va entendre pour nous faire danser à la maison.
Oui, ben la première pièce, ça va être un classique féministe, ça va être Brigitte Fontaine, en fait.
Ah, excellent. Donc, on va écouter Brigitte Fontaine, puis après, on vous revient avec une première nouvelle.
Je me réveille avec un train, je branche la cafetière électrique. Je me rue dans la salle de bain et je deviens paralytique. Sous la douche, il y a un éléphant qui me regarde tendrement. Je balbutie en rougissant d'un air gaga probablement. Mais comment donc êtes-vous entré puisque la porte était fermée? Il me sourit et il me dit: t'occupe pas, donne-moi du nougat. T'occupe pas, donne-moi du nougat. Je bondis sur le téléphone, je fais le 17 et je donne. J'habite au 1 de la rue des douches, y'a un éléphant dans ma douche. Le flic me dit, vas-y toi-même, ça résoudra tous tes problèmes. Déboussolé, je redéboule, là où j'ai laissé ce maboule. La douche est vide, il est parti, le voilà couché dans mon lit. Il me regarde et il me dit, écroule-toi, donne-moi du nougat. Écroule-toi, donne-moi du nougat. Chercher, c'est dans la cuisine à côté. J'y vais et puis je change de cap, j'enfile un manteau et une cape pour recouvrir ma nudité. Et je m'enfuis dans l'escalier, je traverse la ville à pied en cavalant comme une damnée. J'arrive enfin chez un copain qui va m'accueillir dans son sein. Il ouvre la porte et il me dit: assieds-toi, donne-moi du nougat. Assieds-toi, donne-moi du nougat. Hey, oh, oh, oh. Hey.
BG Marina, qui est plus qu'une sœur pour moi. Elle m'a tout de suite donné à boire. Je lui ai raconté l'histoire. Elle a dit alors t'as fait quoi? Ben je lui ai donné le nougat. Là-dessus je vais me faire un pétard et partir pour monter les marches. Elle me fait je viens avec toi. Moi aussi je veux du nougat. 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 Moi aussi je veux du nougat.
Alors, on entendait l'excellente Brigitte Fontaine, toujours sur les ondes de CKIA FM 88,3 avec les deux Hélène du collectif d'Ainsi Squat-elle. Donc, on commence déjà avec une première nouvelle. Donc, j'avais envie, en regardant toutes les actualités aujourd'hui, hier et avant-hier, de vous parler d'une petite nouvelle écolo. Donc, c'est une nouvelle écologiste qui a retenu mon attention. En fait, une opération d'éclat, donc une occupation qu'ont fait les militants et les militantes de Greenpeace, en fait, qui a commencé ce matin à 8h du matin. Donc, juste pour vous mettre en contexte, demain, on sait que notre premier ministre, Stephen Harper, qui d'ailleurs s'est fait surprendre un peu les culottes à terre hein, cette semaine. On voyait dans les médias qu'il a été filmé à son insu lors d'une présentation qu'il faisait aux militants conservateurs, puis où est-ce qu'il parlait des socialistes et des séparatistes. Mais en fait, il avait été filmé à son insu, donc c'est toujours sympathique de regarder, de souligner les mauvais coups de Stephen. Donc, Stephen Harper donc rencontre le président américain Barack Obama demain à Washington. Et Greenpeace voulait profiter de l'occasion donc pour dénoncer l'extraction et la transformation des sables bitumineux en pétrole donc à la veille donc de cette rencontre. Donc ils ont décidé de perturber les activités de la mine à ciel ouvert de sable bitumineux Albion de Shell au nord de Fort McMurray. Excusez-moi mon accent. Et donc, c'est 25 militants et militantes qui ont d'abord se sont enchaînés au véhicule dès 8h du matin, après s'être introduits, évidemment, par infraction dans les installations. Ils ont suspendu plusieurs bannières où il était écrit en anglais « Sable bitumineux, un crime climatique ». Et ensuite, ils se sont carrément enchaînés au véhicule. Donc, il y a un militant qui était porte-parole pour les médias, donc qui vient d'Edmonton, Mike Udema, qui a dit en fait, qui a déclaré aux médias que Greenpeace avait l'intention de rester sur place le plus longtemps possible afin que le message, dans le fond, soit entendu dans les médias puis qu'il se rende éventuellement jusqu'aux décideurs, terme que je hais, donc jusqu'aux politiciens, on va dire. Puis, en fait, dans sa déclaration, il disait... Ouvrez les guillemets. Greenpeace est ici aujourd'hui à l'endroit même où s'orchestre la destruction du climat pour bloquer cette gigantesque exploitation et rappeler à Harper et Obama que les véritables leaders climatiques n'achètent pas de sable bitumineux. Donc, c'est ce qu'il a affirmé. Moi, la dernière fois que je suis allée voir sur Internet, la dernière mise à jour avait été à 15h et à ce moment-là, il n'y avait pas encore eu d'arrestation. Il y avait quelqu'un de la GRC qui était là, mais qui disait « On les surveille, mais on ne fait rien pour l'instant. » Donc, c'est si jamais il y a des gens qui sont au courant de ce qui s'est passé avec les militants de Greenpeace, téléphonez-nous, tapez « Sequoia » dans Google, et puis appelez-nous pour nous donner des nouvelles. Donc, c'est un peu la nouvelle que j'avais envie de partager en premier. Puis ça m'amenait beaucoup la réflexion, parce que je suis allée voir les commentaires sur les forums, puis bon, il y avait une personne qui disait... moi, je donne l'argent à Greenpeace, mais là, je suis pas d'accord quand ils font des actions illégales. Il y avait d'autres personnes qui... Puis ça, on l'entend de plus en plus, je trouve, les gens de plus en plus dans le discours, tant médiatique, mais surtout médiatique, je trouve que les analystes disent « confondent les groupes militants puis les lobbies ». Puis ça m'interpelle beaucoup. Tu sais, on parle, pour parler par exemple du collectif contre la pauvreté, on va parler des groupes, des lobbies contre la pauvreté, Frappru, lobby par rapport au logement à Greenpeace, lobby par rapport à l'environnement. Puis ça me questionne beaucoup parce que dans ma tête, des lobbyistes, c'est des personnes qui ont une formation par rapport à ça. C'est un petit groupe qui vont tenter d'influencer les politiques, mais en ayant des contacts, tandis que les groupes politique, à mon sens, qui s'appuie sur une mobilisation sociale, puis qui a une démarche aussi de conscientisation, de sensibilisation. C'est pas la même chose. Je sais pas si ça résonne chez toi, Hélène, mais moi, c'est vraiment quelque chose qui m'accroche de plus en plus. Puis justement, ce matin, j'entendais à Radio-Canada une journaliste que je n'aimerais pas. Ben, c'est ça, je n'aimerais pas, mais une journaliste qui disait, en fait, qui parlait des groupes écologistes de Québec, puis qui confondait, qui milite, militant, lobby, puis ça m'a vraiment accroché.
Ben, moi, j'ai l'impression que c'est juste le langage économique qui est comme, qui intègre le social, là. Fait que, tu sais, autant, cette même journaliste-là pourrait parler, j'imagine, d'entreprise, d'économie sociale, tu sais, ou de tu sais, c'est ça, c'est la confusion des genres, je pense, mm-hmm. effectivement, là. Mais c'est une vraie question de langage.
Oui, mais en même temps, quand tu nommes, en tout cas, moi, c'est ça, ouais. ça me dérange. Ça ouais. me dérange vraiment qu'ils nous désignent les groupes, qu'ils désignent ces groupes-là comme des lobbies. Je trouve vraiment, justement, en nommant ça comme ça, il y a quelque chose, ça dépolitise le truc, en tout cas,
ouais,
je trouve.
Oui, mais c'est ça, ça change la nature, vraiment, des actions qui sont menées, là, vraiment, mm-hmm. là, tu sais, ça sonne pas pareil pantoute, là.
Non, c'est ça, exactement. En tout cas, j'avais vu cette nouvelle-là écologiste, puis en même temps, ce matin, il y avait justement un reportage à Radio-Canada Radio sur les groupes écologistes. Donc, en voyant les commentaires aussi sur le forum, ça m'a vraiment questionnée, puis c'est sûr qu'on pourrait discuter longtemps des techniques hein, que Greenpeace ouais. met de l'avant, beaucoup moins, justement, beaucoup de financement, moins de mobilisation sociale que des actions d'éclat avec des espèces de militants plus professionnels. Donc, j'ouvre la porte à ces multiples questionnements.
Ben oui, puis on pourra en reparler à Esquatel parce que aussi, moi, j'ai entendu un reportage ce matin à la radio de Radio-Canada sur des groupes qui utilisaient, qui bombardaient les installations. Ben, pas qu'ils bombardaient, là, mais qui s'attaquaient physiquement aux installations pétrolières dans le nord de la Colombie-Britannique. Ouais, puis ça a ouais. fait une grosse histoire. J'ai pas les détails, j'ai juste entendu ça rapidement, mais on pourra en parler aussi.
Absolument. Oui.
Alors pour le moment, on s'en va écouter le groupe Diaspora, qui est un groupe de hip-hop féminin que moi j'aime beaucoup.
Oh yeah!
Que j'essaie de faire jouer le plus possible. Et donc c'est ça, c'est un groupe de Québec avec la toune Le vent tourne.
C'est ainsi que les choses s'annoncent, le vent tourne et les mots se prononcent. Sans rien, sans paillettes, c'est le stylo sur la table, mais l'avenir est certain sur le sort de mon ombre. Ça va sans dire, on s'oppose dans nos thèmes, dans nos peines. Les rafales ramassent et balaient tous ceux qui nous entraînent. On ne se plaint pas, les choses arrivent quand il le faut. Pour tout dans ton pack 5, on a l'aventure sur le dos. Assez large pour tout prendre, sans genou à terre. Les familiers se retrouvent pendant que les autres se perdent. Le vent tourne, c'est clair, mais rien n'empêche de rester soi-même. Regarde, j'écoute et progresse dans le savoir-faire. C'est pas facile, mais aussi fait. Lucifer n'est frais que les faibles. L'effet est aussi drastique, alcool et somnifère. C'est d'ici qu'on décolle, l'ambiance prend forme et rend plus forte. C'est la loi, alors prends des notes. C'est ainsi que les choses s'annoncent, le vent tourne et les mots se prononcent. Sans rien, sans paillettes, c'est le stylo sur la tempe, mais l'avenir est certain sur le sort de mon encre. C'est ainsi que les choses s'annoncent, le vent tourne et les mots se prononcent. Sans rien, sans paillettes, c'est le stylo sur la tempe, mais l'avenir est certain sur le sort de mon encre. Des cadeaux sous la table, toujours fâché, infatigable dans le rôle de la jeune star. Sache qu'à ce jour, tout nous rattrape, oublie, personne s'évade. Les cages dorées sont le reflet de ce que veut la masse. Mais on est plein dans la même situation, QC ou MTL, mais plus des environs. On a rapatrié nos âmes dans ce qu'on aimait le plus. Un peu comme l'armée de Sparte, on aimait ce petit truc. C'est ainsi que les choses s'annoncent, le vent tourne et les mots se prononcent. Sans rien, sans paillettes, c'est le stylo sur la tempe, mais l'avenir est certain sur le sort de mon encre. C'est ainsi que les choses s'annoncent, le vent tourne et les mots se prononcent. Sans rien, sans paillettes, c'est le stylo sur la table, mais l'avenir est certain sur le sort de mon âme. Les rageux se promènent sans laisse dans une mascarade de messe basse. Pousse le son de la baisse pour que j'assouvisse ma soif. Les regards du coin de l'œil ne font qu'attiser mon franc parler. Sacrant qu'on livre nos bonnes et nos mauvaises pensées. Ça joue dur dans les coins de quartier, y'a trop d'autoproclamés sans même tête à couronner. La brise de sud court et renverse tes propos erronés. Désolé poteau, j'ai des portes à défoncer. Le pied de biche n'attire plus, ça va finir ton clic plus. Pas de buste en premier plan ni de pute. Garde le point bien haut, risque que tu le baisses. Tu nous verras bientôt que tu aimes ou que tu hates.
C'était Le Vent Tourne, une chanson de l'excellent groupe de hip-hop féminin Diaspora. Et ça m'amène à vous parler de ma deuxième nouvelle, parce qu'en fait, Le Vent Tourne pour Maher Arar. En effet, d'abord, on va se remettre en contexte. Rappel des faits, Maher Arar, c'est un citoyen canadien d'origine syrienne. Il a été arrêté à New York en 2002. Parce qu'on le soupçonnait à tort d'activités terroristes. Donc, il y a eu des discussions, puis c'est là que le bât blesse. Il y a eu des discussions entre la Syrie, entre les États-Unis et entre le Canada avant sa déportation, donc de New York vers la Syrie. En Syrie, il a été torturé. Il y a sa femme, son épouse qui était encore au Canada, puis de ses proches qui ont vraiment milité avec l'aide de groupes dont la Ligue des droits et libertés, puis qui ont réussi à obtenir son rapatriement finalement le 7 octobre 2003. Puis depuis, Maher Arar a été blanchi par les autorités canadiennes, mais ça a vraiment pris beaucoup de temps. Puis là, dans le fond, ce qui se passe, c'est qu'aux États-Unis, il est encore sur la liste, sur la blacklist. Là. Il ne peut pas entrer aux États-Unis. Puis lui, il veut, c'est pas tant qu'il veut aller aux États-Unis, mais il veut que sa réputation
par
soit
blanchie. Par
principe,
dans le fond. Là.
Exactement. Donc là, ce qui se passe, pourquoi le vent tourne, c'est grâce à Gerald Nadler.
Qui est Gerald Nadler?
Ben, Gerald Nadler, c'est un républicain. Non, c'est pas vrai. C'est un conservateur qui est c'est un démocrate, et voilà. C'est un démocrate qui est président aussi du sous-comité américain sur les droits et libertés. Puis lui, ce qu'il a fait cette semaine, c'est qu'il a envoyé une lettre, dans le fond... où il demande aux autorités, donc à l'administration Obama, il veut savoir pourquoi le nom de Maher Arar figure encore sur la liste d'interdiction de vol aux États-Unis. Il exige de savoir quelle est la position de l'administration Obama sur les allégations, dans le fond, qui pèsent encore sur Maher Arar. Puis, dans le fond, c'est une manière aussi de que le dossier, dans le fond, tombe pas dans l'oubli, hein, parce que ça fait déjà 7 ans. Puis ça m'amène à une réflexion plus générale qui avait déjà été poussée par la Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles. Qu'est-ce que la Coalition internationale pour la surveillance des libertés civiles? En fait, c'est une coalition pan-canadienne qui a été créée après 2001, qui regroupe une multitude d'ONG, des églises, des syndicats, Amnesty International, la Ligue des droits et libertés, Greenpeace, dont on parlait tout à l'heure, aussi des groupes qui défendent les droits des immigrants et des réfugiés. Enfin, une multitude de groupes progressistes qui s'étaient rassemblés tout de suite après 2001, quand il y a eu vraiment en rafale, hein, parce qu'on avait peur. Puis là, au nom de la sécurité, bien, on vote des lois
répressive, ouais, c'est ça qui prévoit dans le fond toutes sortes de mesures pour contrôler l'information, contrôler l'identité, puis contrôler aussi les gens qui sont arrêtés.
Puis détenir les gens, c'est exactement. Ça. Donc, eux, tout de suite, avaient dit, bon, ben c'est beau, là, la sécurité, mais on devrait, dans le fond, déjà à ce moment-là, tout de suite après 2001, se sont formés. Puis en 2003, suite au cas de Maher Arar, ils avaient diffusé un communiqué de presse où est-ce qu'ils disaient, ben un, qu'il fallait une enquête publique sur le cas d'Arar, mais plus, de manière plus générale, disaient qu'il était urgent d'instituer une enquête parlementaire à cause de l'absence de mécanismes réels de surveillance sur l'usage que font les forces policières des pouvoirs accrus qui leur ont été accordés en vertu des lois antiterroristes. Puis, je me disais, où on est rendu justement en 2009? Ça, c'est un communiqué de presse qui était sorti en 2003. Les lois ont été adoptées en rafale en 2001. On voit Arar aux États-Unis, c'est toujours pas réglé. Au moins, au Canada, il a été blanchi, mais je pensais à tous les cas qu'on a entendus.
Tous les autres cas, puis j'imagine... Puis en fait, c'est un problème qui est international, parce qu'il y a tellement de pays qui ont adopté des mesures répressives comme ça à la suite des attentats de 2001 que c'est généralisé comme problème. Là.
Exactement. Donc, on dirait que ça m'ouvrait vraiment la porte, puis... Voyez, tu sais, 7 ans, Maher Arar, puis c'est pas réglé. Donc, toutes les autres personnes, puis je pense que, à ma connaissance, ces mécanismes-là sont toujours pas en place, tant au Canada qu'ailleurs, pour surveiller, dans le fond, comment les forces de l'ordre et de la sécurité maintiennent l'ordre, justement. Pardon, donc, on dirait que ça, c'est une autre piste de réflexion. Ouais, aujourd'hui, là, j'ouvre...
On est dans les grandes réflexions.
Telle une débroussailleuse, j'ouvre des pistes pour la saison qu'on pourrait explorer.
Mais c'est quand même intéressant de suivre le dossier de Maher Arar, qui qui a été important là, tout au long justement des dernières années sur cet enjeu-là, qui a mis en lumière comme ça des problématiques assez
exactement, assez parce que même si c'est des cas généraux puis qu'on va se battre pour les droits de tous et chacun, en même temps, faut pas oublier et chacune, faut pas oublier que des cas comme celui de Malheur, justement, on peut s'en servir un peu comme symbole, comme on s'était servi entre autres, bien pas servi, mais comme le cas de la lutte de Mohamed Cherfi nous a permis, en tout cas à Québec, pour les gens qui ont travaillé dans le comité de solidarité, dont toi et moi, par exemple, de parler plus largement de cette problématique-là, de tous les réfugiés. Donc, ouais. Des fois, ça, les gens ils ont comme besoin d'un visage, puis c'est, ça permet justement de faire avancer plus la sensibilisation puis les luttes par rapport à ça. Donc, voilà les deux petites pistes que
c'est
j'ouvrais.
Excellent.
Écologie et immigration, comme toujours. Pour les personnes qui nous écoutent pour cette troisième année, vous aurez reconnu un de mes thèmes.
Oui, bien, tu vas voir qu'on va, on va continuer sur le même thème avec la prochaine chronique, mais pour le moment, on s'en va en musique avec le groupe Fabulous Troubadour et la pièce Toulousain.
Je ne brandis aucun drapeau, je ne veux suivre aucun troupeau.
À coup, ma cause, c'est bien, ça c'est bien, Toulousain.
Je n'ai ni maître, ni gourou, ni contre-maître, rien du tout.
À coup, ma cause, c'est bien, ça c'est bien, Toulousain.
Je n'ai jamais envié quelqu'un, je ne suis jaloux de tes gueules.
À coup, ma cause, c'est bien, ça c'est bien, Toulousain.
Je n'attends aucun messie, je n'aime pas les utopies.
À coup, ma cause, c'est bien, ça c'est bien, Toulousain.
Je ne me sens jamais vaincu, je ne me sens jamais cocu.
À coup, ma cause, c'est bien, ça c'est bien, Toulousain.
J'accable pas les perdants, je ne me sens jamais gagnant.
À coup, ma cause, c'est bien, ça c'est bien, Toulousain.
J'en veux pas à qui que ce soit, je ne m'en prends jamais qu'à moi.
À coup, ma cause, c'est bien, ça c'est bien, Toulousain.
Je ne crains pas les puissants, je me sens pas impuissant.
À coup, ma cause, c'est bien, ça c'est bien, Toulousain.
Je me la joue pas sudiste, je me la joue pas artiste.
À coup, ma cause, c'est bien, ça c'est bien, Toulousain.
J'aime pas l'impolitesse, j'ai pas peur de la vieillesse.
À coup, ma cause, c'est bien, ça c'est bien, Toulousain.
J'ai pas besoin de m'engager, j'ai jamais été dégagé.
À coup, ma cause, c'est bien, ça c'est bien, Toulousain.
Je ne vais pas sur le terrain, je suis que la soirée matin.
À coup, ma cause, c'est bien, ça c'est bien, Toulousain.
Je ne peux pas être méchant, je n'ai pas de mauvais penchant.
À coup, ma cause, c'est bien, ça c'est bien, Toulousain.
Je ne veux pas être nôtre, ni glouglou, être des nôtres.
À coup, ma cause, c'est bien, ça c'est bien, Toulousain.
Je ne crains pas le bon Dieu, je crois pas à mon Dieu. J'ai pas confiance en Marcos, je ris pas au gag de Bedos.
Je ne suis fanat de rien, je ne suis déçu par rien. Je ne revendique rien, je ne regrette jamais rien.
Je ne méprise personne, mais personne ne m'impressionne. J'ai pas envie d'être riche, ni d'être en haut de l'affiche.
Je veux pas gagner des millions, j'ai de plus grandes ambitions. Je rêve pas du paradis, chez nous on se le construit.
Toulousain, Toulousain, Toulousain.
Soldat, mais je ne fuis aucun combat.
À coup, ma cause, c'est bien, ça c'est bien, Toulousain.
Je ne suis pas optimiste, je ne suis pas pessimiste.
À coup, ma cause, c'est bien, ça c'est bien, Toulousain.
Je ne suis pas jacobin, je ne suis pas girondin.
À coup, ma cause, c'est bien, ça c'est bien, Toulousain.
Je ne suis pas universaliste, je ne suis pas localiste.
À coup, ma cause, c'est bien, ça c'est bien, Toulousain.
J'ai pas beaucoup de besoins, je suis pas anti-américain.
À coup, ma cause, c'est bien, ça c'est bien, Toulousain.
Quand ça va pas, je fais aller, j'accuse pas la société.
À coup, ma cause, c'est bien, ça c'est bien, Toulousain.
J'idolâtre pas le Tché ni les moines du Tibet.
À coup, ma cause, c'est bien, ça c'est bien, Toulousain.
Je n'ai jamais eu d'idole, je fais partie d'aucune école.
À coup, ma cause, c'est bien, ça c'est bien, Toulousain.
Je suis pas régionaliste, je suis pas nationaliste.
À coup, ma cause, c'est bien, ça c'est bien, Toulousain.
Je chante pas mes racines, je brandis pas mes origines.
À coup, ma cause, c'est bien, ça c'est bien, Toulousain.
Alors, vous venez d'entendre les Fabulous Troubadours, c'est les ondes de CKIA FM 88.3. Et ben, on continue à Ainsi Squat-elle avec les filles de Squat-elle, Hélène et Hélène, ce soir, aujourd'hui. Alors, moi, je voulais vous commencer notre section de l'émission Coup de cœur et coup de gueule avec un coup de gueule. Alors, je commence fort et je voulais vous parler de la situation en Iran. qui s'est passé cet été. Alors, je ne sais pas si vous avez écouté les nouvelles cet été. Il mouillait, donc peut-être vous avez eu l'occasion. Mais en Iran, il y a eu une grande vague de manifestations dans le mois de juin, suite aux élections. En fait, il y a eu des élections le 12 juin 2009. Et suite à ça, les résultats officiels des élections permettaient, dans le fond, la réélection du président qui était en poste à ce moment-là, Mahmoud Ahmadinejad. Et ces résultats-là, en fait, même avant l'annonce des résultats, les élections étaient déjà très, très contestées. Il y avait des gens qui alléguaient, dans le fond, des fraudes électorales de manière assez, assez massive. Et suite à l'annonce des résultats, il y a eu une vague de protestations, une vague de manifestations qu'on n'avait pas vues depuis longtemps à Téhéran, en Iran. Alors, il y a eu des manifestations monstres pendant plusieurs jours. Et c'est des dizaines de milliers de personnes qui sont descendues dans les rues pour revendiquer, dans le fond, qu'on refasse du recomptage ou qu'on enquête, dans le fond, les fraudes électorales parce qu'eux pensaient, dans le fond, que le principal opposant de Ahmadinejad, qui est Hossein Mousavi, était en fait le véritable vainqueur des élections et que par une manipulation, bon, ces résultats-là avaient été écartés. Alors, ces manifestations-là, bien, vous en avez souvent entendu parler parce que ça a quand même été important et les journalistes, au début des événements, les journalistes internationaux ont présenté des images, ont rapporté, dans le fond, ce qui se passait. Jusqu'au moment où le régime en place s'est mis à réprimer assez violemment les manifestations. À partir du 20 juin et après, là, les manifestations d'abord ont été interdites et les forces de l'ordre se sont mis à réprimer assez sévèrement et on a mis dehors en parallèle, on a mis dehors les journalistes et les représentants là, d'organisations internationales. Alors, ce qu'on estime pendant cette période-là, c'est qu'il y a environ 4000 personnes qui ont été arrêtés au cours de ces événements-là, au cours de ces manifestations, des manifestants, des supporters de l'opposition, des journalistes également, qui ont été arrêtés, souvent accompagnés de brutalité aussi, battus et tout ça. Donc, c'est quand même assez, assez important. Et à partir de ce moment-là, on n'en a comme plus entendu parler à cause de l'absence de la presse indépendante et de la presse internationale. On n'a comme pas une nouvelle, mais cette situation-là a perduré. Dans le fond, les arrestations ont continué. Il y a eu plusieurs décès aussi des suites de la répression. Selon les autorités, selon les chiffres officiels, il y aurait eu 30 personnes de tuées. Par contre, l'opposition parle de 72 personnes, donc c'est quand même presque le double. Sur les 4000 personnes arrêtées environ, il en resterait 200 environ qui demeurent détenues et 110 personnes vont subir un procès prochainement. Alors, les procès des manifestants qui ont été arrêtés ont débuté au mois d'août. Alors, c'est quand même assez rapide, là. Les premiers procès, d'ailleurs, ont été télévisés par la télévision d'État ou la télévision officielle et ont donné lieu un peu à un exercice de propagande pro-régime là, où on accusait les manifestants de toutes sortes de choses ignobles, d'avoir fomenté le renversement du pouvoir et tout ça. Là. Donc, les premiers procès ont été télévisés et les procès continuent. On continue à partir de hier, en fait, et ces procès-là qui continuent ne sont plus télédiffusés. Je ne sais pas trop pourquoi ils ont arrêté cette politique-là. Bon, alors, les procès continuent, la répression continue. Ce qui est inquiétant avec tout ça, c'est que non seulement il y a des personnes qui sont mortes pendant qu'ils manifestaient, mais il y a aussi des gens qui sont mortes, en fait, des suites de leur détention, soit à la suite de blessures ou de tortures ou de viols ou autres, suite à leur séjour en détention. Et ce qui est décrié, ce qui est critiqué, en fait, c'est une utilisation systématique. Presque tout le monde a été victime de ce qu'on appelle la torture blanche ou le white torture. Dans le fond, c'est une torture On n'utilise pas nécessairement de coups physiques, mais on va par exemple maintenir des gens debout, menottés pendant des heures au soleil, puis après ça, on va les interroger. On les met en cellule avec cinq autres personnes dans une cellule qui n'est pas assez grande pour loger toutes ces personnes-là, donc une cellule de 3 par 2 mètres. Donc, c'est des formes de torture qui sont pas qui ne donnent pas nécessairement lieu à des marques physiques, mais qui sont quasiment aussi dévastatrices. Donc, puis ça, les observateurs et même des gens qui ont parlé à la presse en étant détenus et qui ont raconté leur histoire font état que c'est utilisé de manière vraiment systématique. Donc, c'est quand même très, très inquiétant ce qui se passe en Iran. Et c'est d'autant plus inquiétant que la presse qui suivait ça à grand coup de reportage maintenant est presque muette sur la question, à part quelques petits entrefilets ici et là. Donc, c'est une situation à surveiller, comme dans bien des endroits où il y a un début de révolte, où il y a un début de soulèvement, ben il y a une répression qui s'accompagne de ça. Puis, alors, c'est important de les soutenir, surtout dans ce moment-là. Alors, c'était mon coup de gueule de l'été. C'est pas très joyeux, mais bon, c'est ça, un coup de gueule. Alors, pour le moment, on s'en va en musique avec une pièce qui est dans un album collectif qui s'appelle Africa Wants to Be Free. La pièce s'appelle Où est la justice? Hey yo! Hey yo yo! Hey man, come and dash me, I'll got a big mission. Be fighting justice from the world. Où est la justice? Nous sommes dans le préjudice. Où est la justice? Comme me donne un indice. Voilà la justice. Dans ce monde de préjudice. Voilà la justice. Y'a comme que deux vices. Au troisième millénaire, nous en sommes toujours aux mêmes scènes. Je vois des soldats blancs buter des indigènes. Massacre de manifestants dans les rues d'Abidjan. À peine sorti du Rwanda, les voilà en Côte d'Ivoire. Faisant fi de tous les scandales gravés dans nos mémoires. Ils propagent la mort, nous donnent tout l'état. Que des peuples innocents qui payent toujours de leur sang. La folie meurtrière de ces seigneurs de la guerre. Y'en a marre de payer, nous voulons maintenant manger. Voilà la justesse, dans ce monde de préjudice. Voilà la justesse, je veux qu'on me donne un indice. Voilà la justesse, dans ce monde de préjudice. Voilà la justesse, y'a comme que de vice. Voilà la justice, ouais. Les résistants de la France étaient-ils des terroristes? Pourquoi appeler les terroristes tout ce qui résiste? Où sont les héros et où sont les fachos? On a vu de A à Z les crimes de l'apartheid. Sous les yeux laxistes des mêmes impérialistes. Mais l'Irak et son pétrole inspire soudain de rôle. Et on veut que tout le monde planche dans la buée du mensonge. Tous ces gens qu'on trompe et tous ces têtes qu'on pompe. Comme les pingouins d'Alaska connaissent bien le tralala. Où est la justice dans ce monde de préjudice? Où est la justice? Je veux qu'on me donne un indice. Où est la justice monde de préjudice. Voilà la justesse, y'a comme que de vice. Voilà la justesse, voilà la justesse. Y'a-t-il une exclusion africaine des droits de l'homme? S'il y a une humanité, nous voulons déjà le minimum. Minimum de respect, ne fût-ce que pour ce conseil. Toute notre sueur donnée pour leur reconstruction. Après notre sang versé pour leur libération. Mais ils ferment la frontière au nez de la misère qui fabrique dans le monde avec qui le mettre à la ronde. La supercherie recyclable d'un système capitaliste. Fondateur de base primaire d'une société égoïste. Avec tout ce qui se passe, faut pas se voiler la face. C'est la discrimination en termes de classe et de race. L'Européen blanc, l'Américain blanc, l'Africain blanc, l'Africain noir, immigré, chinois, arabe, immigré, l'Américain noir, étranger, immigré, selon son pouvoir d'achat. Yeah. Voilà la justice, dans ce monde de préjudice. Voilà la justice, je veux qu'on me donne un indice. Voilà la justice, dans ce monde de préjudice. Voilà la justice, y'a comme que de vice. Voilà la justice. Alors, sur CKIA 88,3, vous écoutez Ainsi soit-elle. Et je suis maintenant rendue à mon coup de cœur. Et c'est tout un coup de cœur, vous allez voir. En tout cas, moi, ça m'a vraiment emballée. Et c'est encore dans l'international. J'ai lu cet été un article dans un journal très mainstream sur un groupe qui s'appelle Mujeres Creando. Alors, vous allez, vous voyez ici mon excellent espagnol.
Et, comme mon anglais.
C'est comme... C'est un mouvement féministe en Bolivie. Et c'est un groupe qui existe quand même depuis près de 15 ans et qui se dit... c'est un mouvement féministe anarchiste, dans le fond, et qui... En fait, le nom « Mujeres Creando », ça veut dire « femme qui crée » ou « femme qui est en train de créer », là, si on veut. Et donc, c'est un mouvement qui utilise la créativité et les graffitis, entre autres, comme instrument de lutte. Et il dénonce, bon, le système patriarcal, la violence, par ces graffitis-là. Donc, ils sont nés... l'organisation est née à La Paz, qui est la capitale de la Bolivie, depuis 92. Et donc, c'est ça. Donc, le principal forme d'action qui... par lesquels ils ont commencé c'est la graffiti, exactement. Donc là, je vous fais des citations libres parce que c'est en espagnol, évidemment. Alors, ils disent, par exemple, « La femme qui s'organise ne repasse plus de chemise. » Ou... Yeah. il y a comme plein d'autres citations que je vais vous lire au cours de ma chronique. Mais ce qui est intéressant, c'est que depuis 15 ans, ils agissent, puis non seulement c'est un groupe anarchiste, féministe et tout ça, mais c'est devenu dans presque un mouvement social. Et ils ont eu un impact quand même assez important.
Dans la communauté?
Non seulement dans la communauté, mais ils ont aussi mené des campagnes particulières sur des enjeux. Par exemple, en 97, ils ont organisé une grève de la faim pour la libération de la Mexicaine Raquel Gutiérrez, qui avait été emprisonnée sans procès pendant 5 ans pour avoir prétendument participé à un soulèvement armé. Alors, leur grève de la faim en 97, en 15 jours, a permis la libération de tous et toutes les détenus accusés de subversion et victimes de retard de la justice. Donc, j'imagine que c'était un contexte particulier, mm-hmm. où il y avait des arrestations pour quelque chose de précis. Donc,
c'est
en 15 jours...
C'est incroyable, là, un impact vraiment...
Ah oui, vraiment, vraiment direct. Puis au fil des ans, c'est ça qui est intéressant, ils ont réussi à créer des relations solides et insoupçonnées dans le fond avec des gens différents puis de plusieurs réseaux de solidarité. Et leur slogan, moi, je suis allée sur leur site Internet, parce qu'ils ont un site Internet quand même assez développé, malheureusement seulement en espagnol. Alors, j'ai pratiqué mon piètre espagnol. Et leur slogan s'appelle féministe de lutte concrète, dans le fond, puis ça démontre vraiment leur style de militance. Alors, en 2001, ils ont organisé une mobilisation de plus de 100 jours, qui réunissait, dans le fond, des victimes d'usures bancaires et de prêts qui étaient accordés par des ONG de microcrédit, qui accordaient des prêts à taux d'intérêt de plus de 70%. Et grâce à l'argent de dons, ils ont réussi à soutenir cette mobilisation-là pendant plus de 100 jours, ce qui est quand même assez, assez important. Mm-hmm. En 2003, ils ont organisé une autre grève de la faim qui faisait partie, dans le fond, d'un mouvement plus large qui demandait la démission du président de l'époque, qui était Gonzalo Sanchez de Lozada. Et ça a été un des mouvements qui a été déterminant dans la chute du chef d'État. Bien évidemment, ça s'inscrivait là, dans d'autres mouvements sociaux. Et ce qui est particulier aussi avec ce collectif-là, c'est qu'ils ont créé des espaces sociaux, en fait, des centres culturels autogérés.
Ah ouais.
À La Paz, ils ont créé le premier centre culturel autogéré qui s'appelle Carcajada, qui s'appelle, la traduction, c'est Éclat de rire. Je trouvais ça vraiment beau comme nom. Donc, en 93, ils ont ouvert ce centre-là, c'était leur premier. C'était un centre qui était ouvert à toute la population, donc c'était pas seulement ouvert aux femmes. Ils publient des revues, ils ont publié différents ouvrages.
Ils sont vraiment très actifs sur différents. C'est ça, sur et le combien? Meilleur. Est-ce que
mais, a, non j'ai pas réussi à savoir combien il était.
Ça doit être puis, une coupe quand même, sans social autogéré, grève la faim, tu sais, pour monter tout ça.
Oui, tout à fait. Puis ils ont ouvert un nouveau centre autogéré à La Paz qui s'appelle la Virgen de los Deseos, la Vierge des Désirs.
Okay.
Et ce centre-là, c'est un foyer, dans le fond, offre des soins médicaux gratuits, une bibliothèque scolaire, l'accès à Internet, une salle vidéo pour visionner des films féministes. C'est précisé, pour visionner des films féministes.
Pas de porn.
Non.
Accepté.
Des salles de classe pour faire des ateliers, des salles de réunion et tout ça. En parallèle, ce foyer aux Toujours-là, il y a la maison de Mujeres Creando qui accueille une organisation qui s'appelle Mujeres en Busca de Justicia, donc Femmes en quête de justice. Oui. Qui est un service juridique direct pour les femmes qui décident de sortir du cercle de la violence. Alors, en un an d'activité, ils ont traité environ 800 cas. Et il y a par aussi une garderie qui s'appelle, je trouve ça vraiment très cute, qui s'appelle Mi Mama Trabaja. Donc, ma maman travaille.
Donc, je suis à la garderie.
Voilà.
On a l'air de vraiment vouloir... Tu sais, on a l'air de jouer avec les mots, puis...
C'est ça, ils sont comme super, créatives, mm-hmm. C'est ça. Puis j'avais d'autres citations que je ne retrouve plus dans mes notes, mais bon. Ah oui, ils critiquaient aussi les femmes qui se disent féministes puis qui sont maintenant absorbées dans l'appareil de l'État puis qui sont devenues comme des technocrates. Donc, un de leurs graffitis, c'était « Le néolibéraliste se déguise maintenant en femme avide de pouvoir ». Je trouve ça drôle. Et le meilleur, c'est que non seulement ils font tout ça, mais ils ont aussi starté une fréquence de radio, donc pas nécessairement juste une émission, une fréquence qui s'appelle Radio Deseo, donc Radio Désir.
Je pensais que ça allait être Radio Pirate.
Ah ben, ça aurait pu être ça, mais...
Comme notre Jeff.
La radio poubelle.
Oui, c'est ça.
Et ben c'est ça, en fait, c'est juste ça.
ils ont passé une fréquence radio, donc avec plusieurs émissions. Ça
ben oui, c'est ça. Donc c'est non seulement une émission, mais là, c'est toute la bande FM, cette fréquence-là qui est sous leur contrôle.
Vraiment un beau coup de cœur.
Vraiment, hein. Puis moi, j'ai vraiment eu envie de m'organiser pour qu'on les invite ou qu'on fasse de quoi. En tout cas, bref, je travaille là-dessus.
Une autre piste. Aujourd'hui,
on
ouvre les pistes pour l'année.
Excellent. Fait qu'on s'en va en musique tout de suite parce qu'on a encore plein de choses à dire. On s'en va écouter Orisha.
Represento mis ancestros, toda la mezcla. No lo pierdas, bro. Latinoamericano de La Habana, te lo mando con sabor mejor. Aprenderás que en la rumba está la esencia. Que mi guaguanco es sabroso y tiene buena mezcla. A mi vieja y linda Habana, un sentimiento de manana. Todo eso representa
Cuba. Cuba, orillas donde la onda.
Especulando en el micro, escucha como dice Michael Nico. La música cubana vale mucho, chico. Mi funk estilo mira viene de La Habana.
Baba, vas-y, bouge ton cul sur le beat, écoute ça. Je prêche pour ma chapelle, Panam. Je représente gars, mes refrains de la Havana. Je rappe, c'est mon dada. Michael Nico, chico, soy loco, siempre flow. Je représente la salsa, le soleil de Cuba. J'oublie Paris, la pluie, son ciel gris et tout ça. Je rêve de belles nanas sur la plage de Gros Havana. Pavané, sous les palmiers à fumer, je représente ça.
Sabor a melao de caña. Ay, dime si te
hey, yo representando a los orichas de mi Cuba. Me fueron varios lofing hasta la sepultura.
Represento la salsa, beat y pop, tu salsa, ho.
Cuando quiero estallar yo me voy a mi zona. A La Habana yo me voy.
Represento el blanco, el noir, el chico, la chica. Chicago a Panamá, Tokio a La Habana. Represento la fiesta, el son de conga, du mec en gras.
Saca los collares que llego Chango, Chango.
Chango, bata
la yema ya, ochun, más fere fue un orulo y que mi canto suba, pa' la gente de mi Cuba, mis ancestros, todos mis muertos, todo eso represento.
Cuba, orillas donde grande la Habana, Cuba, de mi música, Cuba, orillas donde grande la Habana, Cuba, de tu música, Cuba, orillas donde grande la Habana, Cuba, de mi música, Cuba, orillas donde grande la Habana, Cuba, de tu música.
Toujours sur les ondes de CKIA FM 88,3, vous êtes en compagnie des deux Hélène d'Ainsi Squat-elle et c'est autour du coup de gueule Nasonex. Donc, mon coup de gueule s'adresse, en fait, ça concerne tout ce qui tourne autour des conflits d'intérêts, règles d'éthique et surtout, en fait, de l'impunité qui s'y rattache. Deux petits cas, j'y vais très rapidement parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Premier cas d'impunité totale, c'est le PDG d'Hydro-Québec, donc j'ai nommé Thierry Vandal. On se rappelle, ça a défrayé la chronique, donc Hydro-Québec qui a fait un octroi en fait d'une commandite de 250 000 $ au collège privé Notre-Dame, doit-on souligner. Donc, déjà des fonds publics pour un collège privé et comble du ridicule, ou en fait, pour ajouter l'insulte à l'injure, M. Vandal est à la fois président du conseil d'administration du collège Notre-Dame, gouverneur de sa fondation et un ancien étudiant de l'établissement. Évidemment, il y a des personnes qui se sont portées à sa défense, dont évidemment Hydro-Québec, mais aussi le gouvernement Charest qui a dit que le lien de confiance n'était pas brisé, que les erreurs, ça arrive, les erreurs de jugement. Et en 2008, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont, en fait, même des organismes qui sont sortis, des organismes culturels parce que qui avait peur, dans le fond, qu'Hydro-Québec cesse de donner des subventions à cause de tout ce scandale-là. Donc, les grands ballets canadiens, les francopholies, les théâtres, les musées sont sortis pour dire « Mais non, mais c'est correct qu'Hydro-Québec verse de l'argent », alors que c'était pas du tout ça la question. Hein. La question ici, c'était vraiment l'apparence, plus que l'apparence, là, le conflit d'intérêts qui était flagrant. Et juste comme ça, en mai 2009, alors que Jean Charest, deux semaines auparavant, avait annoncé qu'à cause de la crise, tout le monde va falloir qu'on se serre la ceinture, qu'on mette la roue à l'épaule, bien, Vandal a reçu un boni de 122 000 $. Autre cas qui m'a particulièrement rentré dans la gueule ou que j'ai envie de faire un coup de gueule, un coup de pitbull, c'est le cas de David Whistle, notre ancien ministre du Travail et député d'Argenteuil. Donc, pour se remettre dans le contexte, il possède l'entreprise d'asphaltage ABC Rive-Nord qui a obtenu des contrats sans appel d'offres du ministère des Transports pour un total de 800 000 $. Il a quitté juste avant. En fait, on disait qu'il avait quitté à cause des pressions de l'opposition, mais je suis tombée sur quelque chose aujourd'hui où on disait plutôt que l'hebdo Axel Laurentide, une journaliste s'apprêtait à publier un article. En fait, elle avait fait une entrevue avec un courtier en camionnage qui affirmait que la majorité des contrats du ministère des Transports à Argenteuil ont été attribués à qui? ABC Rive-Nord, ben oui. Puis, donc ça, c'est un petit peu le contexte. Puis, il faut mettre ça dans une perspective plus large au niveau du gouvernement provincial qu'avant, c'était interdit aux membres du conseil exécutif d'être propriétaires d'entreprises qui recevaient des contrats publics. Hein. Mais il y a deux ans, Jean Charest a décidé de permettre au ministre de conserver de tels actifs. Donc, finalement, on connaît la suite de l'histoire. David Whistle, suite aux pressions, ou peut-être l'article, ou peut-être les deux, a choisi sa compagnie ABC, je rappelle, qui fait de l'asphalte et non son ministère. Il a dit, entre autres, que c'est pour son épouse qui n'en peut plus de voir son mari traîner dans la boue, etc. Puis, comme de l'absurde, Jean Charest a déclaré deux jours après la démission de David Whistle, j'aime beaucoup dire son nom, que c'était de plus en plus difficile d'intéresser des candidates intéressantes et cultivées et tout quanti à la vie politique à cause de la pression médiatique. Bon. Mon commentaire...
Ils sont un peu l'artisan de leur propre malheur, là.
Voilà. Puis mon commentaire général qui finit mon coup de gueule avec ces deux cas, puis qui sont... C'est qu'il y a vraiment, en ce moment, là, Je trouve sincèrement que tout le monde est dans l'assiette à beurre, mais que c'en est... C'est à vomir. Il y a les consultations sur la pauvreté qui commencent, des groupes de femmes qui ferment. Allez voir dans les groupes d'alphabétisation, je veux dire. Puis c'est... Tu sais, c'est vraiment là, il y a comme vraiment le deux poids, deux mesures, là, je veux dire, c'est rendu. Non, mais c'est du duplessisme, là. Le gars, il y attribue avec son chum ministre des contrats sans appel d'offres. Je veux dire, je suis en train de voir cette période-là, parce que j'enseigne au Cégep Garneau, si jamais il y a des gens qui veulent s'inscrire. J'enseigne la littérature au Cégep Garneau. Je suis en train de voir cette période-là, c'est du duplessisme total. Allez, là, du copinage, tout le monde dans l'assiette à beurre. Puis c'est dans le climat en ce moment d'austérité qu'on annonce, hein, aujourd'hui, c'est à la rentrée parlementaire au provincial, on annonce qu'il va y avoir une hausse. Il n'y aura pas de réduction des dépenses. Donc, conclusion, hausse des taxes, etc. Puis, c'est la crise économique, il faut que tout le monde se serre la ceinture. Mais qui serre la ceinture? Pas les gros pensants, on va dire ça comme
qui
ça
pour être poli. Qui nous dirige en même temps.
Exactement, exactement. Donc, en tout cas, c'est vraiment mon coup de gueule. Ça m'a traîné sur le cœur tout l'été. Ça continue avec l'automne. Ça continue, ça n'arrête pas. Là. Il y a vraiment... il y a quelque chose de très, très déprimant dans tout ça. Mais voilà. Ma conclusion à mon coup de gueule.
Ben là, écoutez, on va te réconforter en te faisant entendre une toune de The Herbalizer avec une toune qui n'a rien à voir avec ça, mais qui s'appelle How to Keep a Girlfriend. Donc, c'est des petits conseils à nos amis gars sur comment garder une blonde.
And now I'm just living. Now let me school you on the ways of educated women. Let's get engaged in conversation about the needs and limits. And all the dating scrimmage lines I fucking take serious.
One of the first.
When under the curse, do not shake shit up. The cotton pony red monster causes mad split up. Step back a minute, admit that you're wrong. Or fuck if you're right, dummy, please. Play along, boyfriend. I'm trying to help. Gene's been in relationships. I can relate to this, duh. I'm a girl who thinks a lot of dudes are playing this. I can get away with it, plus. He used how to break up, cause I done made a list. But now back round to Aunt Flo's story. Dudes get hand palming sweaty with this category. But you ain't eating the fluid, and you ain't seeping it neither. We need deep in the crap, at least act a little sweeter. Bleeding like an animal trap, chinchilla with a cycle zipper. And life exit from it, don't be getting trifling with her. It's hard, nigga, we don't like it either. A liter of red could leak on your bed. The shit sucks, people. It might appear that she's a crux of evil, but we don't like to be bitches or Mr. Fuck either. And not the people don't, but I'm gonna leave that alone. No need for info on the info when your crimson bone. Listen, man, I must tell, cause I do it so well. This is how to be keeping a girlfriend. Okay, if you follow all the rules, listen, get schooled on how to be keeping a girlfriend. Checking through the tune, jeans running you through. How to be keeping a girlfriend. Okay, this is the second time round, I've been holding y'all down. Now, how to be keeping a girlfriend. Come on. Don't hit on an ant. Don't spit on a man. Hold the doors. Don't bring drama inside. Don't call her a bitch lest she freaky to sex. The numbers 2 and 3, you can probably forget. No staring at girls lest she feeling them. No breaking a date, that's imperative. Wait, a good reason could work. Phone calls could help, and a rich girl would love some flowers from a bellman. Speak your mind, never say shit. I know it's hypocritical, depends what day that it is. Dick it down, please look around. Unless red man's in town, then freeze on a pound. 1, 3, if she's ugly, but dope as shit. Tell her she's pretty, you have a nose open the 5th. Plus 10, minus the 1. Never lie to a son, cause everything just comes to light just when you're thinking you're one. Sight man, I must tell, cause I do it so well. This is how to be keeping a girlfriend. Okay, if you follow all the rules, listen, get schooled on how to be keeping a girlfriend. Checking through the tune, jeans running you through. How to be keeping a girlfriend. Okay, this is second time round, I've been holding y'all down. Now, how to be keeping a girlfriend. Come on. Alright, now 16. Keep your dicks clean, cause anything else is motherfucking sickening. You could be fucking your health, or just be talked about. A bad fuck could lead to chicks around running their mouth. 17, don't be sniveling, have a spawn challenges. One of the best thing, girls like balance. 1, 8,
Alors, c'est déjà la fin d'un Squatel. On est obligé de décourter la toune. On avait trop de choses à dire. Je pense, Hélène, c'est souvent le cas à un Squatel, mais là, on avait vraiment des trucs vraiment le fun, surtout international. Là, puis... Alors, juste un petit calendrier avant de finir. Si vous avez le temps, jeudi prochain, jeudi soir, il y a un panel de discussion qui s'appelle La ville que nous voulons. Et d'ailleurs, il y a une participante d'un Squatel qui est maintenant.
Véronique Laflamme.
Qui participe. En fait, j'ai trouvé ça très drôle parce que c'était marqué « Venez échanger avec quatre panélistes réputés ». Alors oui, Véronique, elle est maintenant réputée. Et c'est avec Winnie Fraun, Régent Lemoine et Jean Bousquet. Donc c'est sûr, dans le fond, les questions de démocratie, d'écologie et de justice sociale dans la ville de Québec, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on pourrait avoir, dans le fond, je pense que ça se veut une réflexion ouverte sur ces thèmes-là.
Donc, sur des thèmes qui ne sont pas, en fait, excuse-moi, mais sur des thèmes qui ne sont peut-être pas très abordés par
Régis Labeaume. L'unique et le seul.
Oui.
Alors, avant la campagne électorale, ça peut être une réflexion intéressante. C'est le 17 septembre, donc jeudi à 19h, exactement, à l'auditorium de l'ENAP, donc au 555 boulevard Charest-Est. Donc, c'est un rendez-vous. Sinon, jeudi aussi, si ça vous tente pas d'aller à ce panel-là, c'est aussi la fête de Éco-Quartier. Alors, Éco-Quartier, qui est un groupe écolo
très ancré dans la communauté, c'est ça qui est intéressant.
Oui, puis c'est dans les Limoilou, donc ils font une fête dans leur locaux ou dans leur espace. Là. C'est au 798 12e rue à Limoilou. C'est à partir de 5h du soir, puis ça continue là, jusqu'à 9h. Donc, il va y avoir plusieurs activités, dont du cirque, un duo de musique et du gumboot.
Oh!
Oui, donc moi, j'y serai avec mon gumboot.
Mm-hmm. Avec ton équipe, c'est important de le souligner, en fait, tu fais partie d'un groupe qui font du gumboot, plusieurs représentations.
Voilà, donc d'ici et là, on fait du gumboot. On invite les gens à s'impliquer aussi dans le gumboot, c'est vraiment le fun. Alors, on a déjà plus de temps, donc ça conclut notre émission. Alors, Hélène Nazon, merci.
Absolument, je vous conserve mon coup de cœur parce que je serai de retour la semaine prochaine. Donc, mon coup de cœur la semaine prochaine. Hélène, merci pour la mise en onde. Je pense que ça fait le tour. Restez à l'écoute pour une émission qui suit sur le hip-hop. Et n'oubliez pas de nous écouter en rediffusion jeudi à 13h. Bye-bye!
Du jazz partout. Du 23 au 27 septembre, le Festival de jazz de Québec propose 70 spectacles dans 13 lieux de diffusion. Un avant-goût? Le Largo, le Cercle, le Palais Montcalm, le Pub Saint-Alexandre, l'Hôtel Le Clarendon accueilleront les J.J. Johansson, McCoy Tyner, Hypnotic Brass Ensemble, Alan Holdsworth, André Leroux, David Binet, Jessica Vigneault, André Larue et bien plus. Laissez-vous prendre au jazz. Le Festival de jazz de Québec tient à remercier ses partenaires majeurs, la bière Belle Gueule, la Société du Palais Montcalm, Eau de Source Naturelle Saint-Élie, Largo.com, Place Sainte-Foy, Première Ovation Patrimoine Canada, Ville de Québec, la télévision de Radio-Canada à Québec, Rock Détente 107.5, Voir Québec et CKRL 89.1. Jazzaquébec.ca.
Vous voulez partir en cavale sonore?
À Giramundo, on vous parle, on vous chante, on vous raconte la musique, la politique et la culture.
À travers du hip-hop touareg,
de la valse mongole,
du ska japonais, du reggae.